RCF.
Tu vas où habillé comme ça?
J'ai un rendez-vous ce soir.
Mais c'est génial!
Que le spectacle commence.
Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Star ou pas, bienvenue sur le tapis rouge pour un accès VIP à une heure de détente et de culture. Alors sur les marches aujourd'hui, que ressent un écrivain devenu ministre de la culture? Eh bien c'est l'entretien que vous proposera de revivre Maryvonne Busse dans le cadre des 150 ans du magazine Pèlerin. Et puis ils vivent dans les profondeurs des océans, mais ils ne restent pas pour autant dans le noir. Dans le rendez-vous Animaux Incroyables, Claire de Caen nous fera découvrir ces drôles de poissons lumineux. Elle aussi, il y a plus de 160 ans, elle a vu une femme de lumière, des apparitions qui ont transformé son destin et celui de millions de chrétiens. Et son histoire va être de nouveau racontée sur scène. Bonjour Emma et Christophe Hérault.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, point commun à tous les deux, vous êtes à l'affiche de Bernadette de Lourdes, un spectacle musical qui va reprendre en septembre prochain au Dôme de Paris, avant une tournée dans toute la France. Alors comment une jeune ado fan de Rihanna et d'Adèle s'est-elle retrouvée incarner cette jeune fille iconique témoin d'apparition de la Vierge? Et comment un comédien et chanteur plutôt rock et baraqué s'est-il mis dans la peau de l'abbé Peyramale? Comment vous vivez aussi cette aventure dont RCF est d'ailleurs fier d'être partenaire depuis les débuts? Vous allez tout nous raconter, tout doux. Bientôt le retour de Bernadette, c'est parti.
Tout doux avec Vincent Belletti.
Madame, vous qui avez donné l'enfant, le fruit parfait de votre sang, pour les humains faibles et nus, je vous bénis, je vous salue. Madame, vous qui apportez à ce monde des feux de joie qui nous inondent, vous qui nous aimez tant et plus, je vous bénis, je vous salue.
Madame, l'un des titres de ce spectacle musical Bernadette de Lourdes et que vous interprétez ici, Emma. Alors, il paraît que c'est la chanson qui émeut le plus les spectateurs. Est-ce que vous confirmez?
C'est vrai que c'est une chanson qui touche beaucoup les gens parce que je pense que c'est un peu comme une prière et c'est la dernière chanson du spectacle.
Oui.
Et
à ce moment-là, voilà, tout le monde a les yeux un peu humides, peut-être, vous avez remarqué?
Oui, bah, ça résume vraiment le spectacle. Et,
oui.
C'est une prière, les gens se...
Oui.
Se retrouve.
On va revenir sur ce spectacle Bernadette de Lourdes qui a commencé en 2019, mais avant un petit retour sur vos propres parcours à tous les deux. On va commencer par vous, Emma. D'après le dossier de presse et des nombreux articles qui vous ont été consacrés, il paraît que vous êtes née en chantant. Est-ce que vous confirmez?
J'ai chanté à mes 8 ans à peu près.
Oui.
Et j'ai commencé avec des karaokés, des petites scènes ouvertes, des scènes sur Paris. Ouais. Puis après, j'ai fait The Voice Kids en 2015.
On va en parler de The Voice Kids. Mais la musique, ça représentait quoi pour vous dès le départ? Quel sentiment que vous ressentiez en chantant? C'était plus qu'un loisir, plus qu'un divertissement? Enfin, c'était quoi pour vous?
Bah en fait, j'ai commencé vraiment par hasard avec ma mère. Je crois que c'était Mistral Gagnant. J'avais commencé à chanter cette chanson.
Ouais.
Et puis après, j'ai jamais lâché en fait. J'ai toujours continué et...
C'est quelque chose qui vous transporte.
C'est mon moyen de communication, ouais, clairement.
Ouais, clairement. Mm. Très vite, alors, dès l'âge de 7 ans, je crois, vous allez vous lancer dans des concours de chant, comme vous l'avez dit. Vous remportez notamment la finale du tremplin musical Plus de talent en 2015 dans la catégorie junior. Et puis la même année, bah, vous allez participer à la saison 2 de The Voice Kids en interprétant ce titre On ira de Zaz.
Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert. Vous êtes mille pages et moi, je suis la plume. Oh, 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 oh. Vous êtes l'horizon et nous sommes la mer. Vous êtes les saisons et nous sommes la terre.
Voilà, on ira qui a fait retourner dans son fauteuil Patrick Fiori, membre du jury, qui va vous prendre dans son équipe. Alors malheureusement, on n'ira pas jusqu'à remporter la victoire en finale. Déçu ou finalement pas trop grave? C'était quoi votre réaction, Emma?
Bah en fait, clairement, quand j'ai fait The Voice Kids, je me suis dit que ça allait être une belle expérience, mais je jouais pas du tout ma vie. Et en fait, quand je suis sortie des battles, vraiment, toutes les personnes étaient tristes et moi, j'étais pas triste et limite...
Soulagée de quitter.
Mais c'est vrai que ça a été beaucoup de pression et puis, moi, j'étais petite, donc je pense que je prenais pas trop... je réalisais pas trop ce que je vivais et j'ai vécu ça avec beaucoup de recul. Et c'est vrai que j'étais beaucoup entourée, donc ma famille m'a directement rassurée et j'ai pas vécu ça directement comme une... Enfin, c'était pas une défaite et justement, ça m'a encouragé à continuer.
Voilà, plutôt un tremplin. Ça vous a pas empêché de continuer à chanter, notamment à Sydney en Australie, en représentant la France dans un concours international. Mon anglais étant laborieux, eh bien, je ne le prononcerai pas. De vous produire aussi au Casino de Paris, de faire partie de la tournée de The Voice en 2017 à Orange, jusqu'à cette fameuse audition pour Bernadette Delourde. On va y venir dans un instant. Je vais me tourner aussi vers vous, Christophe Héroux. Alors vous aussi, la musique, ça a commencé aussi très tôt à l'adolescence avec une guitare. Est-ce que je me trompe?
Oui.
Oui, je me trompe.
Disons que ça a commencé avec une guitare, mais avant avec un saxophone.
Ah oui.
Le premier instrument que j'ai eu dans les mains, c'est un saxophone, parce qu'en fait, je voulais faire de la musique, et il y avait l'harmonie du collège, j'étais en sixième, et le seul instrument qui restait, c'est un saxophone. Et comme il marchait pas, je pouvais pas faire toutes les notes, alors le type m'a dit, tu vas prendre un trombone. Donc après, je suis passé sur un trombone.
C'était plus simple. C'est comme ça que ça a commencé.
C'était mes deux premiers instruments.
Ouais. Voilà. Et après, vous allez sillonner, je crois, la France avec votre guitare, vous allez chanter. C'était quoi, en fait, votre univers musical au départ?
Ça a toujours été rock et pop rock, mais je me suis vite retrouvé à passer des auditions dans des orchestres de variété professionnelle. Et là, bien tout y passe, les derniers succès du moment, et puis les groupes de rock. Alors je chantais absolument tout ce qui pouvait animer une soirée et faire danser les gens. Et c'est pas moi qui choisissais, j'avais un chef d'orchestre, enfin des chefs d'orchestre. Et donc voilà, ce sont des balles.
C'est comme ça qu'on se forme aussi. Ouais, c'est une bonne école de formation, j'imagine.
C'est une école qui en vaut largement d'autres, oui. Parce que là, on chante pas deux morceaux, on chante 5 à 6 heures devant des gens qui font la fête et avec des moyens techniques parfois au début qui étaient un petit peu rugueux. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, tout me paraît depuis longtemps, tout me paraît assez facile en termes d'endurance et de
Alors, la musique, mais pas seulement, un parcours particulièrement riche sur pas mal de plans, petite illustration sonore.
Au moins 5 fois par semaine le vélo. Aujourd'hui 3 heures, demain 4 heures. Ouais, enfin bon, c'est un peu.
Dis donc, t'as ton secret à parler de flic?
Ouais.
Ah oui.
Je chante.
Je boirai encore de mes autres vies accrochées à tes lèvres. Parce qu'avec toi, la chute est belle aussi.
Quoi, t'as des regrets? Tu veux participer?
Ah non, mais je sais pas, mais si tu peux aider...
T'as entendu, on a besoin de renfort.
Seul contre tous, entre deux mondes, face à soi-même et quand même seul. Se sentir tellement loin des autres.
Voilà, seul contre tous, où vous incarniez le cardinal de Richelieu dans la comédie musicale Les Trois Mousquetaires en 2016. Mais on vous a vu aussi au cinéma et à la télé, notamment ici dans Andy Gang de Stéphanie Pilonka, ou en chef pompier instructeur dans Plus belle la vie. Chanteur aussi avec l'album La chute est belle qui est sorti en 2014, sans oublier votre côté hyper sportif en triathlon. Vous continuez d'ailleurs toujours de vous entraîner, Christophe?
Oui, plus que jamais, ouais, bien sûr.
C'est-à-dire c'est pas toujours du vélo. Du vélo, de la natation, un petit peu de tout, quoi.
Le triathlon, c'est de la natation, du vélo et de la course à pied dans l'ordre. Je prépare toujours des courses. Actuellement, je suis dans la préparation finale du championnat d'Europe Ironman qui aura lieu à Francfort le 2 juillet.
Ah oui, quand même. Alors, la question qu'on vous pose toujours et qui vous agace et que je vais donc vous poser, comédien ou chanteur, vous préférez quoi?
Alors, on m'a souvent posé cette question et j'ai l'habitude de répondre que je préfère chanter une bonne chanson que de dire un mauvais texte et le contraire également. C'est-à-dire qu'il vaut mieux jouer une bonne pièce ou jouer une bonne scène que de chanter une mauvaise chanson. Voilà, simplement.
Tout simplement.
Les bons chansons font bonnes chansons font les bons chanteurs et les bons textes font les bons acteurs. Les bons rôles font les bons acteurs. C'est pas le contraire.
Alors comment tous les deux vous êtes retrouvés justement dans la distribution de Bernadette Delourde et comment est-ce que vous vivez vos personnages? On va vite le savoir. Ce sera juste après une première page musicale. Alors si pour vous Emma, Adèle, Bruno Mars, Sam Smith, ce sont je crois vos références musicales, mais il y a aussi Rihanna. Est-ce que c'est toujours le cas?
Toujours le cas, oui, c'est vrai.
Ouais,
bah, maintenant, il y a Bernadette en plus.
Oui, bien sûr.
Mais oui, toujours le cas. Après, forcément, j'ai d'autres inspirations.
Oui.
Mais ouais, vous avez raison.
Rihanna, qu'est-ce qu'elle vous inspirait déjà quand vous étiez jeune? Vous aviez envie de devenir un petit peu comme elle?
Moi, c'est surtout ses chansons qui me plaisaient.
Oui.
Et j'ai toujours préféré les chansons anglaise, américaine. Mmh. Après, j'écoute aussi beaucoup de chansons françaises. Ça peut être du Piaf comme du Cabrel. Mmh. En fait, j'écoute un peu tout style. J'aime le rap, vraiment variété française. En fait, j'aime de tout.
Vous aimez tout. Alors, on va retrouver Rihanna dans un titre lumineux, Diamond in the Sky, juste après une autre lumière, celle de Bernadette.
Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.
Diamonds in the Sky, c'était Rihanna, l'une des nombreuses références musicales d'Emma, qui va bientôt retrouver le rôle titre de Bernadette de Lourdes, avec notamment Christophe Hérault, qui lui incarne l'abbé Peyramale. Petite bande-annonce.
Alors, c'est toi qui vas tous les jours à ma Sabielle ?
Oui, monsieur.
Et tu t'appelles ?
Bernadette.
Bernadette comment ?
Soubirous.
Demandez journal ! Demandez journal dimanche ! Apparition miraculeuse ! Une jeune fille dit avant que la vienne.
Voilà, extrait de la bande-annonce de Bernadette Delourde, spectacle musical lancé donc à Lourdes en 2019. Bernadette Soubirous, faut-il le rappeler, fille de meunier tombée dans la misère et qui le 11 février 1858, en allant chercher du bois pour se chauffer près de la grotte de Massabielle, eh bien va apercevoir une dame en blanc qui s'annoncera comme la Vierge Marie. 18 apparitions totales qui vont susciter l'incompréhension, voire l'hostilité des autorités publiques et religieuses, sans parler de sa propre famille, avant finalement d'être reconnue officiellement comme lieu de pèlerinage. Voilà pour ce petit résumé. Alors comment est-ce que vous êtes tous les deux retrouvés dans le casting ? On va y venir. Mais d'abord, je vous propose un petit mot sur l'origine de ce spectacle. On le doit à Roberto Cirleo et Éléonore de Galard. Est-ce que vous savez comment tout a commencé, Christophe ?
Ouais. Oui, oui, oui. Pour avoir souvent entendu Roberto raconter ses histoires, je la connais très bien.
Alors justement... Eh bien, écoutez, on va l'écouter justement, la raconter, puis vous me direz si vous avez un petit commentaire supplémentaire à faire là-dessus.
Alors, ce projet est parti de ma grand-mère, qui s'appelait Alice et qui habitait Lyon. Pendant des années, cette petite grand-mère priait pour moi, Notre-Dame de Lourdes, était allée plusieurs fois à Lourdes. Et donc, elle me racontait toujours ça. Et en novembre 2010, on est dans le Gers, à trois quarts d'heure de Lourdes, avec mon associé, une partie de la troupe et les créateurs de Robin des Bois. Et là, j'ai dit à Éléonore de Galard, je lui ai dit, écoute, Éléonore, ma grand-mère prie tellement pour moi, Notre-Dame de Lourdes, que je vais lui faire cette surprise. Et quand on leur a dit, ben voilà, on va à Lourdes, ils ont tous voulu venir avec nous, avec des gens qui étaient de toute religion, ou pour certains non-croyants. Et quand on s'est retrouvé face à la grotte, j'étais un peu déçu, mais le temps de me dire ça, je me retourne et je vois tous mes petits camarades, soit à genoux, soit en pleurs. Et je me suis dit, mais c'est peut-être ça, me racontait ma grand-mère, c'est ça Lourdes, ce sont les autres, c'est nous, ce sont les gens. Et en sortant du sanctuaire, on est allé dîner et Lionel Florence, qui est auteur de nos chansons, nous demande c'est quoi l'histoire de la petite Bernadette, et je lui raconte. Il me dit, mais c'est Les Misérables, c'est d'ailleurs la même époque, tu devrais en faire une comédie musicale. Et Léonore, mon associé, me dit, mais écoute, si Robin des Bois est un succès, on le devra sans doute à Lourdes et il faudra remercier. Et ça a été un énorme succès. Donc on a eu cette dette-là et très rapidement on s'est mis au travail pour créer le spectacle. Il aura fallu 10 ans en fait pour le monter.
Voilà, 10 ans pour monter le spectacle. Vous confirmez tout ce qui vient d'être dit, Christophe Héroux, c'est une histoire que vous connaissez bien maintenant?
Absolument, absolument. Ouais, c'est vrai que ça fait partie maintenant de la légende du spectacle.
Oui, en remerciement pour le succès de Robin Desbois. Oui.
Oui, mais c'est très joli. Ça veut dire que il y a pas de hasard, quoi. Roberto a cette idée de venir en pèlerinage sans savoir vraiment où il allait avec des comédiens d'une troupe, simplement parce que pour retoucher du doigt les histoires que lui contait sa grand-mère. Donc, et puis là, une révélation. Et puis là, vous savez, quand j'ai une phrase qui dit que tout s'écarte devant celui qui sait où il va. Et en fait, c'est ce qui est un peu arrivé à cette histoire, c'est-à-dire que Roberto lui s'est dit, on y va. Léonore a dit d'accord, Lionel Florence a dit vas-y, et puis finalement, 10 ans après, on se retrouve là, et c'était loin d'être gagné, parce que c'était quand même épineux de monter projet à Lourdes, en partant de là, avec les gens qui avaient toutes les craintes que ce soit qu'on galvaude un peu leur histoire, quoi.
Un spectacle a mis donc plusieurs années à aboutir, avec l'accord des autorités religieuses, en l'occurrence du sanctuaire de Lourdes, hein, parce qu'il a fallu quand même demander leur avis, notamment le père Régis Marie de la Tessonnière, chapelain à Lourdes. Alors comment est-ce que vous en êtes arrivé à participer à cette aventure? D'abord, vous, Emma, racontez-nous. À l'époque, vous avez 16 ans, hein, si je ne me trompe pas.
J'avais 15 ans.
15 ans, voilà.
J'avais 15 ans, ouais. Et du coup, on m'a proposé de faire le casting. Donc au début, je me suis posé les questions parce que, honnêtement, je ne connaissais pas l'histoire de Lourdes et Bernadette. Je me suis dit, en vrai, ça ne me donnait pas tellement envie au début, j'avoue.
Qu'est-ce qui vous donnait pas envie? Qu'est-ce qui vous donnait pas envie, justement?
Parce que ce n'est pas forcément un milieu dans lequel j'ai été baignée depuis que je suis petite.
Oui.
Et je ne me sentais pas forcément concernée. Mmh. Et au final, j'ai reçu la chanson « Pourquoi moi ?» et ça a été comme une évidence. Au bout d'une heure, je l'ai apprise par cœur. En fait, je la connaissais déjà. Et j'ai été au casting. Et pareil, un peu comme The Voice... je me suis pas dit que je jouais ma vie et voilà, si jamais ça passait pas, bah c'est pas grave quoi, c'est comme ça. Et en fait, j'ai directement Roberto qui m'a accueillie et ça s'est fait mais tellement naturellement, j'ai été reçue vraiment bien par l'équipe, Grégoire et Léonore, la productrice. Et voilà, ça s'est fait naturellement. Un mois après, j'étais déjà au côté des rôles principaux sur voilà sur scène. Devant le public, à chanter les premières chansons du spectacle. Donc, voilà.
Pour vous, Christophe, comment vous en êtes arrivé dans cette distribution? Là aussi, vous avez passé une audition, comme tout le monde?
Alors, en fait, j'étais déjà, moi, Richelieu, dans le spectacle « Les Trois Mousquetaires », qui était produit par Éléonore de Gallard et Roberto Suerlo. Et lors de la dernière à Marseille, j'étais à table, à côté d'Éléonore, qui parlait de ça et ça m'interpelle un petit peu, puis elle me dit tiens justement il y aurait un rôle pour toi. Je dis pourquoi pas, merci. Et je dis mais quoi? Elle me dit un curé.
Alors après Richelieu, elle avait fait un mal. Ouais. Voilà.
Voilà, c'est ça. Je lui dis déjà que je m'attendais pas à ce qu'on me confie le rôle de Richelieu parce que je ne ressemble pas à Richelieu, je n'ai rien de Richelieu. Voilà. Et là, d'un seul coup, un rôle de prêtre. Je me suis dit mais quand on connaît l'abbé Peyramale, moi je le connaissais pas non plus d'ailleurs. Je dis moi prêtre, c'est bizarre qu'il me voit comme ça. Et j'ai dit bien sûr, on va voir. Et puis alors c'était au départ pour interpréter les chansons, les maquettes, et pour prêter ma voix sur les maquettes, les voix masculines. Bon alors voilà, on était avec une autre chanteuse qui est Sarah, qui joue la maman et qui est arrivée ce jour-là en même temps que moi pour elle prêter sa voix pour les voix féminines. Et on a enregistré comme ça quelques maquettes au studio. Et quelques mois après, Éléonore m'a dit moi je décide pas de tout. Il y a un metteur en scène et il faut aussi qu'il soit d'accord et vous allez donc passer l'audition comme tout le monde. On a donc passé l'audition et on a été validé. Voilà.
Alors c'est vrai que la comédie musicale vous connaissiez déjà. Hein. Vous avez commencé en 2004 dans Spartacus, puis vous avez eu le rôle principal de Ben-Hur de 2006 à 2010. Avant donc on en parlait les Trois Mousquetaires en 2016. Est-ce que vous sentiez là dans ce projet qu'il y avait peut-être quelque chose d'un petit peu différent?
Oui évidemment. Évidemment que c'est différent parce que déjà c'est une comédie musicale qui n'est pas montée à Paris au départ. Elle est montée à sa source à Lourdes. c'est quand même un contexte un petit peu particulier, Lourdes. On va pas se cacher que c'est pas un endroit comme partout, quoi. Il se passe des choses, il y a il y a beaucoup de pèlerins, ça vient du monde entier. On est baigné dans une espèce d'ambiance qui est différente, et puis en même temps, tout est un peu particulier dans ce projet. Déjà, c'est une comédie musicale, mais il n'y a pas de danseurs. Il n'y a pas de danseurs, donc il n'y a pas des gens qui sautent partout. Il n'y a pas d'éclairage en mode sapin de Noël avec des grands écrans vidéo qui clignotent partout. On voit souvent ça dans bien des comédies musicales, sans que ce soit péjoratif. C'est un peu la fête foraine quand même. Ça saute
donc
partout,
là,
ça clignote,
simple.
Ça bascule, voilà. ça explose. Là, c'est très simple. Ouais. Très très simple et très léché. Ouais. Et vous avez juste des décors qui coulissent derrière. C'est tout manuel, c'est tout mécanique. Et c'est huilé comme une chorégraphie. Et puis le thème en même temps, alors le thème de Bernadette est terriblement touchant, quoi. Et moi qui ai été élevé par contre dans la religion catholique, je connaissais sans connaître, mais je connaissais un peu les codes et forcément que je me sentais proche, quoi.
Alors comment est-ce que tous les deux vous avez nourri justement ces deux personnages, comment vous avez travaillé ensemble, Bernadette et l'abbé Peyramale, vous allez nous le dire. Mais le mercredi, eh bien, on se replonge aussi dans le passé avec le magazine Pèlerin qui fête cette année ses 150 ans d'existence, à peine plus jeune d'ailleurs que les apparitions de Lourdes. Et avec Marie Von Bus, rédactrice en chef, eh bien, on va revivre une interview particulière.
Ma vie en mieux.
Bonjour Marie Von Bus.
Bonjour Vincent.
Alors, cette semaine, dans votre rubrique d'archives, vous publiez un long entretien avec Maurice Druon, daté de décembre 1973. Alors, Maurice Druon, je rappelle, c'est l'auteur notamment des fameux Rois maudits, qui étaient adaptés à la télévision la même année. Mais c'est sous une nouvelle fonction de ministre des Affaires culturelles, sous Pompidou, que votre journaliste est venu l'interroger. Pourquoi ?
Alors, en effet, il était intéressant d'aller voir comment cet académicien vivait son mandat politique au cœur des ors de la République. C'est d'ailleurs sous cet angle que notre journaliste attaque son article. Je vous la cite. Il me reçoit dans son vaste bureau du Palais Royal. Une lumière chaude fait chanter les bronzes et donne à l'acajou des meubles des ombres violettes. Voilà, c'était le ton de l'époque. Et d'une façon assez cérémonieuse, elle lui demande ensuite. Ne regrettez-vous pas, monsieur le ministre, d'avoir abandonné votre œuvre pour assumer ses hautes fonctions?
Et alors justement, que répond le ministre Maurice Druon?
Alors, il souligne que si son métier premier est effectivement d'écrire, ses nouvelles fonctions sont passionnantes et de citer parmi ses missions la réforme de la sécurité sociale des auteurs et compositeurs, la poursuite des travaux du futur centre Beaubourg, vous voyez que ça nous ramène en arrière, la sauvegarde des monuments historiques et surtout, il confie longuement sa passion pour l'art avec cette belle formule « L'art est ce qui aide l'homme à se répondre à lui-même quand il se demande pourquoi il est sur Terre et ce qu'il y fait. »
Ça vous arrive régulièrement, Marie Von Bus, d'aller comme ça à la rencontre des personnalités politiques ?
Alors non, finalement, c'est assez rare. Autant le pèlerin de la fin du XIXe siècle, dans sa lutte féroce à l'époque, contre la République anticléricale, suivait de très près l'actualité politique, autant il s'est ensuite diversifié pour devenir un titre d'actualité généraliste, plus familial. Mais nous avons cependant interviewé évidemment d'autres écrivains ministres, comme Alain Perfit par exemple, ou encore un président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, en octobre 1978. Ça, c'était à l'occasion de notre numéro 5000. Et aujourd'hui, évidemment, à chaque campagne présidentielle, nous tendons notre micro aux candidats.
Évidemment. Alors, retour aux années 70. Cette longue interview, quand on la lit, on voit au bas de la signature qu'elle est signée justement d'une certaine Yvonne Chauffin.
Oui, alors à l'époque, parmi les plumes de la rédaction, c'était à elle que revenait l'honneur des interviews de personnalités. Et c'est d'autant plus remarquable que Le Pèlerin était très longtemps une rédaction exclusivement masculine, jusqu'aux années 60 quasiment, au point que le rédacteur en chef, le père Roger Guichardan, un assomptionniste, prenait un pseudo féminin quand il s'agissait de rendre compte d'événements tels que le salon des arts ménagers. Et bon, bah, sans doute pensait-il que son enthousiasme pour les robots de cuisine ou les lave-linges dernier cri serait plus crédible sous une plume féminine.
Et quel était ce fameux pseudo donc du rédacteur en chef?
Alors il signait Tante Léa.
Tante Léa, c'est plutôt amusant. Aujourd'hui, est-ce que les femmes sont davantage présentes quand même dans la rédaction et sous leur vrai nom, Marie Von Bus?
Alors aujourd'hui, la situation s'est carrément inversée puisque sur 39 cartes de presse, la rédaction compte 24 femmes et 15 hommes. mais surtout on ne distingue plus évidemment de rubriques masculines ou féminines. Et si l'un d'entre nous souhaite prendre un pseudo, ce sera seulement une coquetterie d'auteur.
Et ça n'a pas été votre cas, Marie-Vonne Bus, vous n'avez pas pris un pseudo?
Ah, je ne vous le dirai pas.
À nous de le deviner. En tout cas, merci Marie-Yvonne. Et puis, on vous retrouvera la semaine prochaine pour notre plongée dans l'histoire avec Pellerin. En attendant, le numéro reprenant cette longue interview du ministre écrivain Maurice Druon est à retrouver demain dans les kiosques. Bonne fin de semaine à vous, Marie-Yvonne, et à bientôt.
Merci, Vincent.
Tout doux, 150 ans d'histoire avec le Pellerin.
Voilà, Christophe Héroux, Maurice Druon, les Rois Maudits. Je ne sais pas si vous auriez aimé jouer dans cette saga historique, qui a d'ailleurs été l'objet d'une nouvelle version en 2005 par José Dayan. Je ne sais pas si ça vous aurait inspiré.
Ah ben, j'aurais adoré tourner avec José Dayan, c'est un privilège, bien sûr.
Ouais. Vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire.
Non. Il a failli en être question, et puis il en sera peut-être question, mais pour l'instant, ouais, j'ai pas cette chance.
On parlait aussi de la place des femmes dans la rédaction. Hein. Bernadette, héroïne féministe à sa façon, à votre avis, est-ce que c'est, vous le ressentez comme, un petit peu comme ça, Emma? C'est une figure un peu féministe.
Oui, parce que du coup, dans le spectacle, ce qu'on met vraiment en avant, c'est la jeune fille qui se bat pour ses idées. Mmh. Et voilà, peu importe les personnes qui la croient ou pas, elle a son idée en tête et elle va jusqu'au bout. Donc je pense qu'il faut qu'on s'inspire de ça dans notre société qui est un peu, un peu dure parfois. Mmh. Moi, j'essaye de m'en inspirer aussi. C'est vrai que ça m'a donné un peu plus de force aussi, ce rôle. Ça m'a fait grandir parce que aussi j'ai été proche d'adultes, voilà, comme Christophe. Des metteurs en scène, Serge Denoncourt, producteur. Donc du coup, voilà, ça m'a beaucoup inspirée. Et ouais, je pense que c'est,
C'est un
féministe.
Une référence féministe. Emma et Christophe Héroux, soit Bernadette et l'abbé Peyramale du spectacle Bernadette de Lourdes, qui va être repris en septembre prochain à Paris avant une tournée dans toute la France, se retrouve pour continuer d'en parler, de même qu'avec Claire Decamp, eh bien, plongera dans les abysses océaniques à la rencontre de drôles d'êtres lumineux. À tout de suite.
Tout doux, une émission de RCF et Radio Notre-Dame, présentée par Vincent Bellotti.
Et retour sur le plateau de Tout doux avec nos invités du jour, Emma et Christophe Héroux, chanteurs et comédiens. Emma qui va reprendre le rôle-titre de Bernadette de Lourdes et Christophe celui de l'abbé Peyramale. Un spectacle à l'affiche du 21 au 24 septembre prochain au Dôme de Paris, Palais des Sports, avant une tournée dans toute la France à partir du 25 novembre. Et c'est un événement dont RCF est fier d'être partenaire depuis ses débuts. Alors Bernadette et l'abbé Peyramale, une rencontre qui au départ n'a pas vraiment été sereine.
Alors c'est toi qui vas à la grotte?
Oui, monsieur le curé.
Et tu dis que tu vois la Sainte Vierge?
Je ne dis pas que j'ai vu la Sainte Vierge.
Alors qu'est-ce que c'est que cette dame?
Je ne sais pas.
Ah, voilà, tu ne sais pas, tu ne sais pas! Menteuse. Et pourtant le journal l'écrit. Et tous ceux que tu fais courir après toi le disent que c'est la Sainte Vierge. C'est bon. Bon alors qu'est-ce que tu vois?
Quelque chose qui ressemble à une dame.
Oh, quelque chose, je vois quelque chose.
Monsieur le curé.
Quoi?
La dame voit une procession à la grotte.
Menteuse. Bah comment veux-tu que je commande une procession, moi? C'est Monseigneur qui décide des processions.
Voilà, pas évident hein, pour l'abbé Peyramale de croire les propos de cette jeune fille. On peut d'ailleurs peut-être rappeler, hein, Christophe Héroux, qui était l'abbé Peyramale à cette époque.
Bah, c'est un simple curé de village. Lui, il n'a rien demandé. Et lui, il fait son truc de curé. Et d'un seul coup, il y a une gamine qui arrive et qui dit « J'ai vu une dame en blanc qui m'a demandé de vous demander d'aller construire une chapelle. » Tout le monde la prend pour une
folle,
une affabulatrice, une folle. Enfin, une gamine un peu dérangée. Et lui, ça lui tombe dessus. Alors, comment ça Mais il n'a rien demandé, lui. Il n'a aucun moyen, il n'a rien. Sa soutane, ses sandales, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, d'un seul coup, il y a le clergé qui arrive. Mais c'est quoi cette gamine qui vous demande quoi, comment ça se passe? Et puis après, il n'y a pas que le clergé, il y a le commissaire machin, il y a le procureur truc, il y a tout l'État qui arrive en disant, mais attendez, mais qu'est-ce que c'est que cette folie là que vous êtes en train de faire? Vous ne pouvez pas contrôler un peu cette gamine? Alors lui, il veut bien, mais il aurait, moi j'ai toujours pensé qu'au départ, il aurait eu envie d'y croire tout de suite. Mais il peut pas parce que il peut pas raconter n'importe quoi. Et puis voilà, donc il l'envoie un petit peu à chaque fois à la pêche aux informations. Il dit bah t'as qu'à lui demander ça et puis puis demande lui ça et puis donc il l'envoie balader plusieurs et puis un jour elle revient avec une phrase qu'elle peut pas avoir inventée en latin, et ça par contre là ça fait basculer ce vieux garçon qui est l'abbé Péramal.
Comment tous les deux vous avez nourri ces personnages? Je sais pas, Emma, est-ce que vous avez lu des livres? Est-ce que vous avez vu des films sur Benedetto Berrou? Ou est-ce que vous avez reçu des consignes précises du metteur en scène, hein, Serge Denoncourt?
Je me suis renseignée sur Bernadette et sur son histoire. Et après, le long travail, ça a été surtout avec Serge Denoncourt, qui est le metteur en scène. Et on a eu de longs jours de répétition avec toute la troupe. Donc, pour tout vous dire, en fait, je ne savais pas faire de comédie au tout début. Donc, j'arrivais dans une comédie musicale, mais juste avec
votre
mon chant, quoi.
Oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça. Mmh. Et donc, du coup, j'ai dû apprendre à faire de la comédie. Et il fallait que je commence face à 20 professionnels, des producteurs, des metteurs en scène, des acteurs qui avaient déjà fait une dizaine de comédies musicales. Donc j'avais beaucoup de pression et parfois je me suis retrouvée bloquée parce qu'il fallait juste crier un peu plus fort que parler, quoi. Ouais. Et voilà, à des moments je me suis bloquée. Clairement j'ai dit au metteur en scène, non je peux pas, j'y arrive pas, quoi. C'est vraiment trop compliqué pour moi parce que je suis quand même réservée de base. Et au final j'ai eu un déclic juste après et ça a été vraiment super top. Et j'ai découvert justement la comédie et franchement sur scène j'ai vraiment moins d'appréhension que de chanter, quoi. Enfin, je préfère limite faire de la comédie. C'est vraiment bizarre à dire, mais j'ai vraiment trouvé une nouvelle passion, quoi.
Christophe Hérault, comment vous, en tant que professionnel quand même aguerri, hein, sur scène ou derrière l'écran, vous avez encouragé peut-être Emma, parce que c'est vrai, comme elle le dit, c'était pas évident pour elle, une jeune débutante qui débarque quand même dans ce milieu-là. Il faut quand même avoir un minimum d'attention, d'écoute.
Ça va vous surprendre, j'ai toujours eu l'impression de débuter mon métier à chaque nouvelle aventure. Serge a une manière particulière de fonctionner, je ne la connaissais pas. Il a ses exigences et moi j'ai recommencé à zéro avec lui. J'ai été c'est vrai épaté par Emma parce que elle est arrivée parfaitement novice, elle avait jamais dit la moindre ligne de texte. Ça, c'est quand on sait ce que c'est ça pèse quand même très très lourd. Vous retrouvez face à un mec comme Serge Denoncourt qui elle a déjà eu beaucoup de chance de se retrouver avec lui parce que ça aurait pu faire peur à beaucoup de metteurs en scène qui auraient tout simplement pas su faire et dire mais je fais comment moi, elle débute, elle est bloquée, elle me dit qu'elle veut pas. Sauf que Serge lui il a plus d'un tour dans son sac et surtout il aime les gens qui débutent parce qu'il peut les modeler comme il veut et il sait là où il va les emmener et il s'attend à ce qu'il y ait des blocages, c'est normal. Et il a su faire, il est très très pédagogue et Emma a su également s'ouvrir au bon moment et ça a donné que aujourd'hui on a une comédienne, d'ailleurs il l'a dit lui-même, aujourd'hui j'ai une actrice. Et ça c'est une chance, c'est des rencontres, mais comme quoi ce qui doit se faire se fait. Et moi avec Serge, ben j'ai dû aussi travailler, j'ai dû négocier. Je voyais ce Péramal au départ un petit peu moins bougon, un peu moins haut dans le je le voyais un peu moins comme ça quand même. Et lui me disait non, il faut que t'y ailles, il faut que t'envoies là. Je dis ah bon, mais t'es sûr? Il y a un moment, j'avoue, j'ai dû lâcher prise et lui faire confiance en lui disant quitte à avoir l'air con, je vais y aller. Puis si on me dit que c'est pas bon, ce sera de sa faute et pas de la mienne, mais en tout cas pour l'instant je lâche et j'y vais. Et j'ai bien fait parce que c'est vrai que il avait cette vision d'ensemble, il savait où il allait et un metteur en scène, il faut le suivre, quoi, faut respecter un petit peu son rêve.
Alors ce spectacle, même s'il est parti à la base de documents officiels et religieux, notamment les auditions de Bernadette, il se veut pas non plus une leçon de catéchisme, le message est beaucoup plus universel. Qu'est-ce qui vous touche justement dans le personnage de Bernadette qui a pratiquement votre âge quand vous prenez le rôle? En quoi vous vous sentez proche d'elle aujourd'hui, Emma?
Je me sens proche d'elle parce que déjà elle est proche de sa famille et je le suis également avec la mienne. D'ailleurs ma famille, j'ai eu la chance parce que en 2019 j'avais 17 ans, donc ils m'ont suivi, ils ont tout lâché à Paris pour vivre l'expérience avec moi, donc ça c'était un grand soutien. Et en fait j'essaye d'être, je pense que je suis quelqu'un d'assez naturel et d'intègre, et voilà, si quelque chose me plaît pas j'ai tendance à le dire et pareil à aller au bout de mes idées.
Elle vous a aidé à vous affirmer peut-être?
Je pense que j'ai toujours été comme ça, mais c'est sûr que ça m'a vraiment bien aidé un peu plus, ouais.
Un petit peu plus. Alors, il y a un mot sur la distribution. David Bann et Sarah Cabillot qui interprètent les parents de Bernadette, Grégory Deck, le commissaire Jacomet, il y a aussi Damien Sarg, Daniel de Philippi, qui est Monseigneur Bernard Sévère Laurence, évêque de Tarbes, et puis des costumes supervisés par une pointure en la matière, Médérite Caron, des décors signés Stéphane Roy, bien habitués à ce genre de spectacle. La représentation, elle ne se situe pas dans la grotte même de Lourdes, hein, ça aussi, il faut le préciser. Et puis côté musique, eh ben, elle a été confiée, comme pour Thérèse de Lisieux, à Grégoire, hein, qui s'était fait connaître avec ce méga tube collaboratif Toi plus moi en 2008. Alors, qu'est-ce qu'il avait décidé à s'engager aussi pour Bernadette? Il l'avait expliqué en 2019 à Thierry Lionnet dans l'émission Visage.
Déjà, je trouvais l'idée géniale, c'est-à-dire le fait qu'elle soit à Lourdes en permanence. Un peu comme ce qui se fait au niveau des comédies musicales à Broadway. On n'est pas là à faire des tubes radio pour que ça passe partout, que pendant 3 mois ce soit dans une grosse salle parisienne, que ça patte en tournée, que c'est fini. Mmh. Non, là il y a un projet, si ça doit durer 20 ans, ça va durer 20 ans. Ensuite, le fait aussi d'être l'unique compositeur, et puis l'histoire de Bernadette, son intégrité, c'était plus facile de rien dire.
Je ne laisserai pas dire ni t'atteindre ni te salir, je ne te laisserai pas seul. Moi, je te crois.
Voilà, Grégoire, auteur en partie des chansons de ce spectacle, Bernadette. Je vous ai vu beaucoup rire lorsque j'ai donné le nom de personne. J'ai dû me tromper quelque part, à mon avis.
En fait, vous savez pas, mais Sarah ne s'appelle pas Cabillot, mais Caïbo.
Caïbo, voilà. Sarah, bah, Caïbo. C'est mon côté dyslexique. Voilà, je l'avais mais pourtant bien orthographié. Je m'excuse pour Sarah, qui interprète les parents de Bernadette. Je sais pas si vous avez dans toutes ces chansons, vous en avez interprété plusieurs, hein, Emma, si vous en avez une de préférée, une qui vous a beaucoup touchée en particulier.
Honnêtement, elles m'ont un peu toutes touchée. Pourquoi moi ? Parce que c'est la première chanson du spectacle. Il y a aussi Quand tu t'en iras, parce que les paroles, elles sont tellement claires qu'elles percutent directement, elles résonnent directement en nous. Madame aussi, parce que, toutes les chansons, N'être qu'un homme, Moi je te crois, toutes les chansons sont vraiment splendides, quoi.
Chanson que vous avez d'ailleurs interprétée dans une personnalité mondialement connue. On en parlera tout à l'heure parce que je crois que ça reste un très bon souvenir. Marie, Vierge de Lumière. Eh bien, justement, on va parler de la lumière, mais dans les profondeurs de l'océan. C'est là où je vous emmène maintenant. C'est avec Claire Decamp des éditions Fleurus qui nous y entraîne dans notre rendez-vous animalier du mercredi.
Alors, comment ça va, chien normal ?
Oh, t'es super fort !
Mais on est plus fort que ce que vous croyez.
Tout doux, incroyables animaux.
Et bonjour Claire.
Bonjour Vincent.
Alors on pourrait penser que la vie est impossible à des milliers de mètres de profondeur et pourtant des poissons se sont adaptés à ces conditions extrêmes. Mais comment font-ils ? Quels sont les super pouvoirs de ces poissons des grands fonds marins ?
Eh oui, ces poissons des abysses vivent dans une obscurité presque totale, un froid glacial, une nourriture qui se fait rare et une pression écrasante. Tout ça à la fois. Et pour cela, ils ont des particularités impressionnantes et beaucoup d'entre eux semblent tout droit sortis d'un film de science-fiction.
Alors, vous dites particularités impressionnantes, c'est-à-dire ?
Alors déjà, pour se nourrir et survivre, il n'est pas question de passer à côté de la moindre proie. Il faut être un chasseur redoutable. Et c'est pour cela qu'ils ont des estomacs élastiques, des leurres lumineux, des mâchoires disproportionnées ou encore des crocs bien affûtés. Mais je vous rassure, la plupart d'entre eux ne sont tout petits et ne dépassent pas les 20 cm.
Tant mieux, parce que ça donne vraiment pas envie de les rencontrer. Mais pour résister à la pression, ils font comment ?
Alors c'est une bonne question, car à moins 1000 mètres, la pression est déjà 100 fois supérieure à ce qui existe à la surface de la planète. Alors imaginez à moins 8000 mètres. Pour résister à une telle pression sans être écrabouillé, les poissons abyssaux sont mous de partout, avec des tissus liquides et gélatineux, des muscles mous, des os spongieux, etc. Donc ces poissons sont tout lents, moins agiles, et en fait ils vivent au ralenti.
Bon bah on l'a bien compris, hein, ce ne sont pas des canons de beauté, mais ils ont quand même une belle particularité, ce sont des créateurs de lumière. Dans quelle mesure ?
Alors oui, effectivement, pour la plupart ces poissons produisent et émettent de la lumière. On appelle ce phénomène la bioluminescence. Cette lumière leur permet déjà de s'éclairer, d'attirer des proies, et parfois aussi de se camoufler des prédateurs.
Et il y a d'autres avantages à être comme ça lumineux ?
Alors oui, cette bioluminescence sert aussi d'outil de reconnaissance. Les poissons peuvent ainsi se trouver, se reconnaître et communiquer dans le noir. Ils font des flashs, des crépitements et d'autres lueurs. Et c'est bien utile, par exemple, notamment au moment de la reproduction. Si on prend l'exemple des poissons lanternes qui vivent jusqu'à 1500 mètres de profondeur, ils ont des petits spots lumineux sur le corps qu'on appelle des photophores. Et en fait, leur emplacement leur permet de se distinguer entre les mâles et les femelles.
Voilà, pour éviter donc les confusions. Pour terminer, Claire, sauriez-vous nous dire quel est le poisson qui détient le record de profondeur ?
Eh bien oui, figurez-vous que c'est le poisson limace. Ce poisson limace va jusqu'à 8130 mètres de profondeur, car il vit dans le gouffre le plus profond des océans, la fosse des Mariannes, qui se situe dans l'océan Pacifique.
Eh bien, merci pour toutes ces informations éclairantes. Mais avant de vous laisser regagner la surface, dites-nous, comment est-ce que vous avez pris tout ça? Vous avez plongé en apnée à 8000 mètres de profondeur?
Alors non, c'est un peu trop profond pour moi. J'ai trouvé ces informations dans la grande imagerie sur les poissons, qui est publiée aux éditions Fleurus et que vous pourrez retrouver en librairie.
En librairie. Mais on vous propose aussi de gagner cette grande imagerie sur les poissons. Aujourd'hui, pour ça c'est facile, ben, il suffit de nous envoyer un mail à jeu@rcf.fr, jeu donc jeu@rcf.fr. N'oubliez pas d'y indiquer une adresse postale et on tirera au sort pour désigner le gagnant ou la gagnante. Merci Claire pour cette plongée lumineuse dans les océans et la semaine prochaine, eh bien, c'est Agathe Dutot qu'on retrouvera sur la terre ferme. À bientôt.
Merci, à bientôt.
Sous l'océan. Doudou c'est bien mieux, tout le monde est heureux sous l'océan. Là où il bosse toute la journée, esclavagé, prisonnier. Pendant qu'on plonge comme des éponges sous l'océan.
Doudou avec Vincent Belletti.
Sous l'océan, extrait de La Petite Sirène. Ça, ça doit vous parler, Emma, non? La Petite Sirène.
Ah, j'adore, ça m'enjaille là.
Vous l'avez vu plusieurs fois, non? Quand vous étiez petite?
Non, c'est pas celui que j'ai regardé le plus. Moi, je regardais plus Cendrillon.
Cendrillon, ouais. Bon. Ouais. Emma et Christophe Hérault, nos invités du jour à l'affiche de Bernadette Delourde qui reprend à Paris en septembre prochain. Alors, cela dit, en dehors de Bernadette, vous avez aussi vos propres carrières et vous, notamment, Christophe, avec un nouvel album, je crois, non, qui est en préparation. Dites-nous tout.
Oui, qui est sorti l'année dernière et pas complètement sur les ondes. J'ai mis juste 4 titres. Je commence à entrevoir quelques concerts. Il y a quelques dates de mise déjà. Pour commencer à interpréter cet album devant le public. J'ai pas eu beaucoup de temps depuis la sortie de l'album parce que j'ai pas mal eu de projets de cinéma, de séries, de tournage et avec le spectacle Bernadette, ça a pris beaucoup de temps, donc il a fallu un petit peu que je choisisse. Et là, je me remets un petit peu sur la vie de cet album. Ouais.
Eh bien, je vous propose d'en écouter un titre. Ça s'appelle « J'étais un aviateur » et vous nous donnerez après le contexte tout à l'heure. On laisse les auditeurs le découvrir.
Dans le grand couloir blanc où les gens déambulent, il semblerait que le monde s'y perd. Regardez les passants, la vie qui s'articule, on dirait que cette fois l'hiver aura raison de moi. Il y a des regards, il y a des sourires, et ces gens que je ne connais pas, j'ai bien quelques flashs, quelques souvenirs d'un passé lointain, de ma mémoire qui expire. Ce qui a dû être moi. J'étais un aviateur et je volais mes heures d'Alzheimer à des ciels de traîne qu'on voit d'en bas. J'en ai chassé des nuages et je dessinais des sillages. J'approchais du soleil en éclats et je me moquais des présages. Il n'y a que l'amour qui restera. Il y a cet enfant qui joue dans le hall, un avion de papier léger comme un soupir. Il y a cette musique douce Anatole, quand j'étais à mille pieds avant que de trop vieillir. Quand dans les airs j'étais roi, quelle est cette vie qui ne me revient pas? Souvenir dérisoire d'un passé qu'on étire. Qui est cet enfant qui me connaît mieux que moi? Serait-il ma mémoire ou bien mon avenir? Est-ce que quelqu'un lui dira?
J'étais un aviateur, on vient d'entendre quelques notes de ce titre par vous, Christophe Hérault, chanteur et comédien. Comment elle est née de cette chanson-là, qui parle, on l'a bien compris, d'Alzheimer ?
C'est en fait que dans une période de ma carrière où qui marchait moins bien, j'ai pas eu d'autre choix. Moi, je suis intermittent du spectacle, comme tout le monde, et il y a parfois des tunnels. Et dans ce tunnel-là, j'ai dû trouver des solutions pour vivre et continuer mon métier. Et j'ai eu l'opportunité d'aller chanter dans une maison de retraite. Et je m'attendais pas du tout à ce que ça plaise. Donc j'ai dit, mais moi je faisais du rock, donc qu'est-ce que je vais leur faire ? Alors je vais leur faire du Brel, je vais faire d'Aznavour, je vais faire du... Et puis des trucs de Ave Maria, des trucs comme ça, puis on verra bien quoi. Et ça faisait un carton à chaque fois. Et se passait le mot, et de maison de retraite en maison de retraite, j'en ai fait comme ça.
La star des maisons de retraite.
Et un jour, dans une maison de retraite où je passais, il y avait une unité Alzheimer, et un petit monsieur qui m'approchait tout le temps à la fin. Alors, vous savez, les petits vieux, je dis ça d'une manière affectueuse, quand ils sont dans une maison de retraite, ils sont souvent en pyjama, en pantoufles, dans une petite chaise roulante, ça. Et lui, il arrivait toujours avec un petit costume bleu, une petite écharpe, des yeux bleus clairs comme le ciel, et il venait me remercier. Alors il avait plus la parole, il avait plus de mémoire, mais il venait me remercier comme ça. Et en me regardant dans les yeux, ça m'intriguait, et j'avais chanté 2-3 fois dans cette maison de retraite, et un jour j'y retourne, il était plus là. Et je vais voir l'infirmière, je lui dis, mais le petit monsieur là qui venait me voir à chaque fois, il est parti la semaine dernière, c'était un grand aviateur. J'ai dit, ah bon ? En fait, ce petit gars qui ressemblait plus à grand chose, qui avait plus de tête, plus de mémoire, plus de parole, peut-être me racontait une histoire en me regardant dans les yeux comme ça, en me disant, mais moi je suis pas le petit vieux que tu vois là tout sénile, moi j'étais un grand aviateur avant, j'étais un aventurier.
Ouais,
et
ça
cinq
inspiré,
ans après, ouais. j'ai écrit cette chanson, voilà, tout simplement.
Alors c'est vrai qu'il n'y a pas que Bernadette Delourde dans vos vies professionnelles, du moins pour vous Christophe, mais pour vous Emma, est-ce qu'il y a eu d'autres pistes, d'autres projets qui se sont ouverts après Bernadette ?
D'autres projets qui sont en cours. Et là je suis en train de travailler aussi sur mes chansons, mes premières compos, donc j'espère que ça sortira un jour, avant septembre j'espère. Mais voilà, j'y travaille dur et je suis à fond dans le sport en ce moment, donc là je suis en
pour tenir
détox,
le coup.
En diète.
En diète.
Elle va faire un Ironman avec
et
moi.
Et voilà, je suis les traces de Christophe.
Et bah, c'est bien. En tout cas, ça vous a permis, Bernadette, de chanter au JMJ de Panama en 2019, dans un extrait du spectacle, et même devant une certaine personnalité avec une partie de la troupe la même année.
Et l'album avec les chansons du spectacle, si vous voulez les voir, pour d'un jour, ce serait l'occasion de venir voir le spectacle.
Je vais être c'est pour moi.
Merci.
Je vais
te préparer une chanson.
C'est un groupe dietro qui a rappresentato.
Madame. Vous voyez un petit peu voilà, c'est un moment qui donne vraiment la chair de poule. Le pape François finit par leur dire.
Voilà, émotion, disait cette journaliste de BFM TV d'où a été tiré ce reportage. Vous avez vraiment chanté devant le pape ? Est-ce que vous en avez encore des frissons, Emma ?
Ah oui, c'était vraiment un moment incroyable. On y allait pour 3 jours et en fait, du coup, on a rencontré le pape au Vatican, donc ça a été une chance incroyable. Et en fait, on a été avec BFM, les investisseurs, donc Coulier. Il y a eu Gad Elmaleh aussi.
Qui s'est d'ailleurs beaucoup engagé dans le projet, un soutien financier, Gad Elmaleh, qui a encouragé le projet de Lourdes. Donc vous aussi, Christophe, vous étiez présent. Hein, ça reste
bien sûr.
Oui, on a été avec les rôles principaux.
On était au Panama ensemble, on était à Rome ensemble devant le pape. Oui, bien sûr.
Ouais.
On est de toutes les aventures.
De toutes les aventures. Alors dans cette émission, on a une petite tradition. C'est une boîte à questions mystère et on va tout de suite l'ouvrir ensemble.
La boîte à tout doux.
Allez, je vois Emma qui commence à frémir. Alors, à l'intérieur de ce petit coffret, il y a des cartes, au dos de chacune, une question pour mieux vous connaître. Alors, je vais en tirer, allez, on va dire une chacun, au dos de ces cartes. Donc, cette question, il n'y a rien d'indiscret, Emma, je vous rassure. Je remue les cartes et vous
pas
me dites si vous êtes
générale,
prêt pour la première. Est-ce que vous êtes prête pour la première question ?
Allez, go.
Go. Vous gagnez 3 millions loto, Emma. Qu'est-ce que vous en faites ?
Je voyage.
Oui. Et où ça ? Vous avez déjà une destination ?
Oh bah partout dans le monde du coup.
Pas un pays en particulier, non ?
Non, pas en particulier, mais je voyage partout dans le monde.
Vous avez quoi faire avec 3 millions et qu'est-ce que vous faites du reste ?
Ouais, je pense. J'embarque toute ma famille, ça c'est sûr, hein.
Oui.
Bien sûr.
On a l'impression que la famille, c'est vraiment quelque chose de très important pour vous.
Ouais, clairement.
Ouais.
Et donc voilà, je voyage avec ma famille.
D'accord. Je vous pose la même question, Christophe. 3 millions, qu'est-ce que vous en faites ?
3 millions, ce serait pas assez pour entrevoir des projets cinématographiques, ouais. les produire et les générer.
Ouais. Ou un album.
Faut plus que ça. Ouais. Oui, ça, évidemment que je produirais du cinéma et de la musique, en tout cas j'y participerai. Je mettrai peut-être un petit peu à l'abri les miens avant, mais j'essaierai de générer des choses, oui, ça ouais. c'est sûr, qui aurait pour moi du sens. C'est on est de passage, hein, donc c'est faire la fourmi, c'est je suis pas non plus une cigale, mais faire la fourmi c'est pas mon truc. D'accord. Je préfère essayer de construire des choses et d'avancer.
Allez, une autre question. Je bats le jeu et cette fois-ci, Christophe, vous m'interrompez quand vous voulez.
Eh ben top.
L'objet dont vous auriez du mal à vous séparer.
Est-ce qu'il y en a... Oh là là.
Alors, moi, j'ai déjà une petite idée parce que depuis que je vous vois, depuis le début de l'émission, vous êtes tous sur votre portable. Est-ce que c'est ça l'objet dont vous auriez du mal à vous séparer ou vous avez d'autres choses?
Non. Non. Moi, j'ai un collier autour du cou dont je ne me séparerai pas.
Ouais. Qui vient d'où ce collier? C'est pas indiscret.
C'est la médaille des sœurs de Bethléem, qui m'a été offerte par une personne qui m'est très chère.
Ouais. Et donc, vous portez tout le temps avec vous.
Oui.
Ouais. Et vous, Emma, un objet dont vous auriez du mal à vous séparer?
Très bonne question. Bah, directement, je pense au téléphone, mais en vrai, je pense que je pourrais m'en séparer. Enfin,
Quoi? Combien de temps? 1 minute? 2 minutes?
Non, quand même.
Un peu
quand
plus.
Elle dort.
Quand elle dort,
elle s'en sépare.
Non, je sais pas. Je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas.
Bon, bah écoutez, joker en ce qui vous concerne. Voilà, on va refermer la petite boîte à questions et puis on la rouvrira demain avec notre prochain invité.
Doudou avec Vincent Belletti.
Magnifique, beaucoup d'émotions.
Impressionnant, c'est fantastique.
C'était très très joli, très visuel, les musiques sont super, la mise en scène était très très bien.
On est pris dans l'ambiance et c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça leur permet de bien comprendre tout ce qui s'est passé ici à Lourdes.
Voilà, des réactions enthousiastes des spectateurs après une représentation de Bernadette Delourde, un spectacle qui d'ailleurs parle aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Est-ce que c'est votre impression à tous les deux?
Ah oui, clairement, ouais, c'est le cas.
Ah oui, bien sûr, évidemment.
Et c'est les personnes d'ailleurs non-croyantes qui sont le plus bouleversées, parce qu'ils s'attendaient vraiment pas à grand-chose au final, et ils en ressortent bouleversés.
On a eu plusieurs fois l'exemple, oui, ça c'est sûr. De toute façon, on n'a jamais vu quelqu'un ne pas être bouleversé par ce spectacle, et dire « wow, c'était pas mal ». Non, c'est pas arrivé, c'est vrai.
Clairement.
Et bien justement, on va l'occasion d'être de nouveau réému. Le spectacle va reprendre du 21 au 24 septembre au Dôme de Paris Palais des Sports, avant une tournée qui débutera dans toute la France du 16 au novembre au 25 juin 2024. Et toutes les infos, le site dédié Bernadette Lourde, toutattaché.fr, un événement dont RCF, je vous le rappelle, est partenaire. Eh bien, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir participé à cette émission. Je vous souhaite plein de succès pour la suite, sous l'œil bienveillant de la petite fille de Meunier. Merci aussi à Christophe Morague et Pierre Samanos qui ont accompli leur petit miracle quotidien à la régie technique. On va se quitter évidemment avec une chanson phare de ce spectacle, Bernadette, Pourquoi moi? Bon début de soirée à tous et à toutes à l'écoute de RCF. Fait de Radio Notre-Dame.
Je suis née dans la peau, sans aucun horizon, que rester à genoux, sans chercher de raison. Je suis née dans la peau, parce que c'était ma place. Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est pour vous? Alors pourquoi moi, si ce n'est par vous? Je suis née de la boue, en y trouvant l'eau claire. Il m'a tenu debout pour m'éloigner de terre. Je suis née de la boue pour y laisser une trace. Alors si c'est moi, ce n'est que pour vous. Alors si